À voix nue, toute cette semaine, Martin Kénéen rencontre Simone Schwarzbart. Ce soir, sur l'île aux belles eaux.
Simone Schwarzbart, vous êtes romancière, mais aussi encyclopédiste et dramaturge. Vous avez récemment fait paraître L'ancêtre en solitude, qui était une continuation, un prolongement de l'œuvre singulière que vous avez écrite à quatre mains avec votre époux André Schwarzbart. Et toute votre œuvre, justement, est tissée à la fois de votre histoire de femme guadeloupéenne et de l'histoire d'André Schwarzbart, juif de Moselle, et tissée aussi de ce travail d'écriture, par moment à quatre mains et par moment chacun signant en son nom propre, André Schwarzbart ou Simone Schwarzbart, vos romans. André Schwarzbart s'est fait connaître en 1959 avec Le Dernier des Justes, pour lequel il a reçu le prix Goncourt. Vous avez écrit ensemble en 1967 Le plat de porc aux bananes vertes. Vous avez signé seul Pluie et vent sur tes lumées miracles, qui est une sorte de best-seller traduit dans de très nombreuses langues, qui vous a valu le prix d'électrice Elle en 1973 au moment de sa publication. Puis ce sera Tigeant l'horizon. Je ne vais pas tous les énumérer ici, mais ce qui est assez fascinant, c'est que presque toujours, quand on entre dans votre œuvre, on arrive sur une île. Il y a cette île à la dérive, aussi appelée l'île aux belles eaux, dans Tigeant l'horizon. Et j'aimerais qu'on débute, comme vous le dites, des Indiens de la Guadeloupe, avec votre façon particulière de poser votre œil sur le paysage. Cette île, votre île, où vous dites que c'est ici que vous choisiriez de renaître, de souffrir et de mourir, à quoi ça ressemble ?
Ça ressemble à un papillon. On est d'emblée dans la métamorphose. C'est un pays qui est tout à fait lisse dans un certain sens et chaotique dans un autre sens. C'est un pays qui est toujours improbable parce que il y a toujours quelque chose, une menace quelconque, une menace des eaux d'ailleurs, d'être englouti une fois ou l'autre par quelques tsunamis. Il y a chaque fois la menace d'un cyclone. Chaque année, nous avons à entendre à la radio une multitude de prophéties cycloniques qui nous disent que tout cela se dirige vers nous et que cette année-ci, vous aurez à subir les intempéries et les risques de 12 cyclones, par exemple. Mais chaque année, 12 cyclones, 15 cyclones, celui-ci, on l'a invité parce qu'il est passé au loin dans la mer. L'autre est arrivé sur Haïti. Bon, sans arrêt, il y a le volcan, il y a cette soufrière dont on nous menace et nous dansons sur un volcan, justement. Et il y a, enfin, toutes ces menaces qui aboutissent à rendre cette terre 10 000 fois plus chère chaque jour aux yeux de ses habitants, qui façonnent les êtres qui déambulent à la surface de ce morceau de soleil. Et voyez-vous, ça nous oblige tout simplement à penser et à savoir que nous nous baladons avec la mort dans l'ourlet de nos robes et de nos vêtements. Et ça nous oblige à vivre.
On a ce petit caillou, Simone Schwarzbart, dans l'ourlet de nos robes ou de nos pantalons. Et ce petit caillou aussi, d'une certaine façon, c'est la Guadeloupe elle-même, que vous avez pu décrire comme ce petit point que seuls les cartes, les atlas les plus rigoureux permettent de localiser parfois. Et puisqu'on est dans cette île que vous avez d'emblée décrite comme une île de la métamorphose, Je pense aux personnes qui se métamorphosent, aux personnages. Et singulièrement, dans votre œuvre, ce sont les marrons, les nègres marrons, c'est-à-dire ceux qui ont résisté, ce sont ceux d'en haut qui se sont cachés et installés dans les collines, qui, eux, se métamorphosent en chiens, en oiseaux, en crabes, en fourmis, et qui, dit-on, viennent épier ceux d'en bas qui sont dans les villes et les villages. Est-ce que ça nous dit quelque chose de la place d'où vous parlez ? Parce que si on reste pour l'instant en Guadeloupe, c'est un espace où il y a eu les Indiens, où il y a eu les esclaves africains, il y a eu ces nègres marrons qui se sont échappés, bien sûr les esclavagistes et les colons blancs. C'est un espace complètement métissé et bouleversé au fur et à mesure des générations. Vous, quelle est votre position ? C'est celle de la marronne qui se métamorphose dans l'écriture ?
Comme le dit Césaire, j'habite une blessure sacrée. C'est vrai, j'habite des ancêtres imaginaires. J'habite aussi tous ces gens que j'ai vus depuis petite. Tous ces farouches qui se sont réfugiés, justement, dans ces hauteurs. Toutes ces personnes qui ont inventé un mode de vie, une philosophie, qui ont inventé une résistance, qui ont réparé le vêtement décousu, parce que on dit en créole que la vie est une femme folle aux vêtements déchirés qui parcourt les rues. Et quelquefois, certaines personnes ont l'art de raccommoder une pièce du vêtement, mais quelquefois il y en a aussi qui refusent de raccommoder et qui regardent tout cela et qui disent qu'il ne faut pas raccommoder le vêtement, mais qu'il faut un autre vêtement, qu'il faut tout simplement inventer un nouveau tissu, inventer une nouvelle coupe de vêtements, de robes, de pantalons, d'une nouvelle ligne. Il y a tout cela. Les marrons, en fait, dans la vie antillaise, les marrons ont une place primordiale parce que ce sont eux qui lavent notre honneur perdu. Dès lors que, dit Homère, un homme est esclave, il perd la moitié de son humanité. C'est vrai, certainement. Mais comment la récupère-t-il alors, cette humanité ? Parce qu'on ne peut pas vivre à moins d'être dans la bestialisation ou à moins d'être de chausser les lunettes de ceux qui vous regardent comme des riens. Et on ne peut pas ravir sa dignité. Comment la ravir alors ? Et il le faut. Il faut la ravir. Il y a toute cette bande de marrons, ces récits. Mais il y a aussi beaucoup la restitution de l'humanité de l'esclave est très souvent passée à travers la musique. C'est dans cette musique des origines, cette musique qui, en fait, a été le petit caillou que l'esclave a transporté depuis l'Afrique, ce petit mystère, cette chose, justement, sans nom et sans mot, cette vibration, à savoir qu'il est une âme, qu'il a une âme. Isaac Bashevis-Singer disait « Il faut croire aux âmes ». C'est en Dieu qu'on ne peut pas croire, en fait. C'est ce que ces esclaves savaient. Ils savaient qu'il fallait croire en eux, en leur âme. Ils la ravivaient à travers des chants, à travers une musique qui ne s'expliquait pas toujours, mais qui les fortifiait, tout simplement. Ils ne s'expliquaient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles venaient quelquefois de tribus totalement différentes de tous ces pays africains qui ont été rançonnés en hommes. Donc, ils venaient de toutes sortes d'horizons, mais La musique, le tambour parlait son langage et restituait tout cet honneur qu'on leur avait ravi. Et on parlait de tous ces êtres, de toute cette tribu que charriait et que charrie ce monde africain. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce mélange, en fait, la rencontre des civilisations, des hommes, effectivement, des Indiens qui habitaient là, des esclaves qui sont arrivés, des Européens, des Chinois, des Hindous. Ce sont des espèces de grains de sable que l'on déposait dans l'huître. Et l'huître a fait la perle de tous ces grains de sable divers. Il y a une perle qui a une coloration spéciale, spécifique, et qui a pris une teinte arc-en-ciel, je dirais, qui reflète l'apport en couleur, en odeur, en saveur, en philosophie, en métaphysique, de toutes ces influences diverses, mélangées, et qui prenaient cette teinte particulière que l'on appelle aujourd'hui le tout monde, mais qui est tout simplement la rencontre ordinaire qui se passe ailleurs également, qui est la rencontre forcée et planétaire du monde entier. On ne peut plus ici, ailleurs, on le voit particulièrement bien avec maintenant c'est les voyages que l'on fait, que l'on propose, mais qui ne sont souvent pas de vrais voyages. Mais en tous les cas, ces voyages et ces rencontres étaient des chocs et étaient vraiment de vrais voyages et de vraies rencontres, puisque cela a donné quelque chose. Ça a fait de cet océan Atlantique une Méditerranée du XXIe siècle. Ces pays sont des espèces de loupes qui réfléchissent une lumière et une chaleur aussi très spéciale et qui donnent un mouvement à l'avancée humaine. Ça ne s'arrête pas. Nous sommes dans l'inachevé. Et quand on est dans l'inachevé, on peut en fait presque croire au miracle.
Mais vous aussi, Simone Schwarzbart, vous êtes une sorte de loupe et vous avez quelque chose de planétaire déjà dans votre origine. Parce que vous êtes guadeloupéenne, on est autour, on part de cette île pour traverser le tout monde avec vous, mais vous êtes née à Saintes, en Charente, d'un père militaire et d'une mère institutrice. Est-ce que vous gardez ou vous vous êtes reconstitué via peut-être un pèlerinage des paysages de ce paysage originel?
Non, je suis partie de Saintes, de la ville de Saintes, en Charente-Maritime, à l'âge de 3 mois. De sorte que je n'en ai pas gardé souvenance. Mais même si je n'y suis pas reparti, même si je n'y suis pas retourné, je garde, il y a une mémoire, je crois que rien ne s'efface, même comme cela, à cet âge-là, ou même on se construit une mémoire. Il y a aussi le fait que quelquefois, je suis retournée à Saintes, je suis retournée dans les arènes, je suis retournée en esprit à l'hôpital où ma mère me mettait au monde. Bon, et puis, nous sommes retournés, nous sommes revenus, ma mère et moi, toutes seules, hein, alors que mon père restait, puisqu'il était militaire, restait ici en France métropolitaine pour défendre cette patrie qui était la sienne, donc et la nôtre, bien sûr. Cette balade depuis Saintes, ces paysages que je n'ai pas vus, et qui m'était restitué à travers des textes scolaires, des textes qui parlaient de l'hiver, des textes qui parlaient du froid. Ça ne m'a pas paru vraiment une atmosphère étrangère. Ça ne m'a pas surprise, si vous voulez. Et je suis rentrée dans ces autres climats tout naturellement et spontanément. De même que le climat dans lequel je vivais réellement à la Guadeloupe avec ma mère. Nous habitions, en fait, ma mère était une petite institutrice de campagne et elle avait à cœur de faire tous ses enfants rattraper leur retard, puisque à ce moment-là, dans les campagnes antillaises, les enfants arrivaient très tardivement à l'école. Ils devaient rester pour aider leurs parents aux tâches quotidiennes, à faire du charbon, à aller chercher la pitance pour les animaux, à garder les enfants. Donc ils arrivaient à l'école avec un retard prodigieux à 10 ans, à 10 ans, à 11 ans. Et ma mère voulait absolument leur faire rattraper tout cela. Si bien que moi, ça a été un peu ma chance, j'avais la bride sur le cou. C'est-à-dire que, alors qu'il était en fait interdit de parler, par exemple, le créole, avec cette espèce de tâche que ma mère se donnait, j'étais totalement libre. Les enfants étaient mes frères et mes sœurs, puisque moi, j'étais enfant unique. Alors, comme ils s'adressaient à moi en créole, j'étais complètement imbibée de l'espace créole. Je partageais avec eux. Et le créole, ça signifie aussi partager des secrets. Partager un rythme, même dans la parole, un rythme syncopé. Ça signifie également partager toutes sortes de non-dits, de silences, parce que dans le créole, il vous est demandé de deviner les silences qui sont assez nombreux dans cette langue pourtant tellement exubérante. Mais tout cela me rentrait, si vous voulez, par cette chance que j'avais d'être libre et d'avoir accès à leurs âmes, à leur vie, à toute cette vie que ma mère ne pouvait pas soupçonner, mais que moi, je partageais, parce que les enfants me racontaient tout ce qu'ils voyaient la nuit dans leur case. Je connaissais la vie, en fait, des adultes à travers le rapport que m'en faisaient toutes ces amies dans cette cour de récréation qui était pour moi, en fait, l'apprentissage de la vraie vie, puisque la vie que je menais avec ma mère en tant qu'enfant unique était une vie, en fait, de recluse, parce que il y avait une chose pour elle qui comptait, c'était d'amener les enfants à les tirer de la canne. Elle voyait pour eux un autre avenir. Elle ne concevait pas que qu'entre ses mains, les enfants puissent de nouveau retourner à la canne.
Vous évoquiez à l'instant, Simone Schwarzbart, votre relation avec votre mère, Alice Brumand. Et j'entendais dans votre récit de la rencontre avec ces enfants qu'elle contribuait à tirer de la canne en leur offrant un accès à l'école. J'entendais comme un écho avec le personnage de Tijan, le héros de votre roman Tijan l'Horizon, qui avait ses jeunes épaules couvertes de fantômes. Est-ce que on pense aux fantômes notamment de l'esclavage, mais aussi peut-être des fantômes plus lointains, venus d'Afrique, par exemple. Est-ce que vous étiez dans une ignorance de cette histoire et la rencontre avec ces enfants, en particulier dans la maison familiale où votre mère leur faisait la classe, ça a été une façon de peupler vos épaules, vos jeunes épaules de fantômes?
Je pense que dans ma vie, les fantômes ont toujours été là, même avec ma mère. Elle était tellement réservée, c'était une femme extrêmement réservée. Cependant, je crois que sa fréquentation à elle aussi, ma mère, c'était des fantômes. Par exemple, tous les soirs, avant d'aller au lit, nous nous asseyons sur le rebord du lit et ma mère commençait toujours à invoquer les défunts. Ma grand-mère, mon grand-père, enfin les oncles partis, tous ces gens Il y a un culte en Guadeloupe. Ça n'est pas peut-être vécu comme un culte des ancêtres, mais c'est en tout cas vécu comme un culte nécessaire, forcément, à la vie des vivants. Si les vivants ne fréquentent pas les morts en Guadeloupe, ils ne sont pas vraiment vivants. Il y a une sorte de soif de récupérer sa propre histoire. En fait, c'était comme si toutes ces personnes d'avant étaient passées sur terre et n'avaient pas été jugées assez dignes pour figurer dans quelque ouvrage. Et donc, ça nous dépréciait d'autant également. Et de parler de tous ces gens d'avant, ça nous faisait notre couronne, en réalité. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que à Guayave, le lieu où le village que nous avons habité, André et moi, et que j'habite encore, donc à Guayave, il y a eu des Rastas qui se sont installés dans la montagne et qui, dirent-ils, s'étaient installés là parce qu'ils voulaient pister la trajectoire de solitude. Ils pensaient,
ils nous ont dit, de la mulâtresse. Esclave marronne révoltée qui a combattu aux côtés de Delgrès au début du 19e siècle.
Et qui a inspiré le livre « La mulâtresse solitude » qu'André a écrit tout seul. En fait, cette marronne qui fait partie du mythe fondateur en Guadeloupe maintenant, ces histoires nous sont nécessaires parce qu'ils nous apprennent également la complexité même de se trouver dans ces situations historiques, dramatiques, et de ne pas savoir toujours quoi faire et à quel moment agir. L'histoire de solitude, c'est l'histoire de cette petite fille qui a été abandonnée par sa mère. Pourquoi ? Parce que sa mère avait été violée sur le navire qui l'emportait en Guadeloupe. Comme c'était la coutume en ce temps-là, c'était la pariade. Donc, les marins s'emparaient des femmes, violaient les femmes, les esclaves qui se trouvaient dans les cales pour augmenter leur prix et qu'elles soient enceintes et qu'elles portent déjà un fruit dans leurs entrailles, un fruit qui pourrait servir déjà de future main-d'œuvre à l'acheteur. Voilà un peu l'histoire de cette femme.
Puisqu'on est dans les paysages, on a commencé avec vous, Simone Schwarzbart, cet entretien sur le paysage de la Guadeloupe. Là, on se trouve à bord des navires négriers, de ce que Paul Gilroy a appelé ce Black Atlantic, cet Atlantique noir, celui de la traite des esclaves, et que le poète Derek Walcott appelle aussi, il dit la mer, c'est ce coffre gris, et il dit précisément que la mer est l'histoire, qu'il s'est passé quelque chose de fondateur, oui, de matriciel sur cette mer. Comment est-ce que vous la représentez, puisqu'on était dans les paysages, cette mer, cet océan ?
Cet océan, c'est à la fois un immense tombeau, c'est à la fois un immense cri silencieux et à la fois grondant, parce que quand la mer se fracasse comme cela sur les rochers, sur nos falaises, à Pointe des Châteaux, par exemple, j'entends dans l'eau, j'entends autre chose que seulement le bruit des vagues. Tout cet océan de souffrance et de ce cimetière à valeur de cadavres qui tapissent les abîmes. Je vois tout cela. Et en même temps, je vois aussi cette mer comme une immense terrasse qui prolonge nos îles, qui prolonge nos pays, nos petits pays, et qui les rend immenses en même temps. Je vois que cette mer nous accroche à d'autres mondes, nous ouvre à l'ailleurs, à nous-mêmes, puisque nous sommes cet ailleurs, nous le portons en nous. Puisque ce pays est à la fois une petite île, mais qui renferme en elle tellement de graines venues d'ailleurs. Nous avons, si vous voulez, nous avons des plantes de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe, des plantes aussi amérindiennes qui étaient déjà sur cette terre. Il y a tellement de métamorphose même du paysage, parce que toutes ces plantes, toute cette végétation a été rebaptisée par nos soins. Cette langue créole, justement, qui aime tant les images, a greffé sur toutes ces plantes des noms qui ne correspondent absolument pas à la plante qu'on pourrait nommer ainsi. Par exemple, un poirier. Si vous venez aux Antilles, un poirier n'est pas un poirier. Un poirier est un arbre immense qui donne des planches extraordinaires pour la menuiserie, pour des planches blondes qui sont tellement belles avec des fleurs. Un poirier aussi porte des fleurs mauves qui sont si belles qu'ils ressemblent à des orchidées. Il y a toutes sortes de pommiers chez nous. Les pommes lianes, les pommes malacca, qui disent d'elles-mêmes, le nom dit d'où elles viennent, ces plantes. Des pommes citères, il y a des pommes calebasses. Il y a tellement de noms différents pour les... de pommes, vous pouvez chercher... Vous pouvez chercher vainement la vraie pomme telle qu'on la conçoit ici en France métropolitaine. Il y a tous ces palmiers différents qui viennent de tous les horizons du monde, et les fleurs qui justement, et ces oiseaux, et ces, ce sont des c'est un paysage qui est un paysage mélangé, un paysage de merveille, un paysage de conte. Et ce sont des endroits improbables, mais qui existent pourtant, qui ont failli être des paradis, qui ne le sont pas certainement, mais qui sont des propositions de paradis, je dirais.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kenéen avec Simone Schwarzbart. À voix nue, réalisation Rafik Zénine. Prise de son, Frédéric Quérou, coordination, Claire Poincignon. Les émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.